世の中にはすぐわかるものとすぐわからないものの2種類がある。すぐにわからないものは長い時間をかけて少しずつわかってくる。
Haïku, tout court, la petite émission pour partager de la poésie. Bonjour et bienvenue dans Haïku tout court, la petite émission pour découvrir et partager ensemble les plus petits poèmes du monde, à savoir les haïkus. Dans cette 7e émission, nous allons découvrir l'importance de la 3e et dernière grande règle du haïku. Après avoir vu l'importance du nombre de syllabes, du mot de saison, nous pouvons maintenant parler de la césure, ce qui se dit kirei en japonais, et donc parler du mot de césure, kireji. Comme toujours, certains pensent que c'est cette césure qui est la règle la plus essentielle du haïku et la principale. Nous allons voir en tout cas qu'à l'instar du mot de saison, le kigo, le kireji pose aussi beaucoup de difficultés au traducteur. Qu'est-ce que la césure et à quoi sert-elle? Commençons par cela. La césure est en quelque sorte une pause dans le poème, un moment suspendu qui précède souvent une nouvelle image. Cette césure souligne le contraste entre deux éléments du poème et permet en tout cas à celui-ci d'avoir une certaine résonance. Comme il est écrit dans la préface du livre « Haïku du temps présent » de Mayuzumi Madoka, le kireji n'est pas nécessairement explicite. Une simple pause à l'intérieur du haïku peut induire cet intervalle. Ce « blanc » entre guillemets, qui, selon la conception japonaise, sollicite imagination et sensibilité bien mieux que le discours exhaustif. Dans « Haïku en herbe », Isabelle Asunsolo écrit « La césure, kirei en japonais, est une caractéristique essentielle du haïku. Elle peut être indiquée par un symbole, un tiré, ou autre. Au Japon, ce sont de petits mots, les kireji, qui jouent ce rôle. » Ils ajoutent de l'expressivité, ils disent une émotion sans réellement préciser laquelle. Dans les traductions françaises, c'est souvent un tiré qui va matérialiser la césure. Mais en japonais, cela est marqué souvent par un mot ordinairement non traduit, ya, keri, kana ou d'autres. Ces mots ou entre guillemets interjections n'ont pas de sens prédéfini, ils seront donc interprétés différemment selon le lecteur. Voilà, selon le poème, le kireji sera positionné à la fin du premier ou du second vers. Il introduit une attente, une suspension. Je trouve que c'est l'une des grandes leçons à retenir de ce mot de césure. Puisqu'il s'agit bien d'un mot au Japon, il met en valeur la relation d'opposition ou de complémentarité de deux parties du poème. Et c'est là que se trouve, à mon avis, la charge poétique particulière du haïku, de nous faire ressentir l'interrelation des choses entre elles. Dans le site suisse Le Japon avec Andrea, la rédactrice insiste sur un point important. Le mot de césure donne une nuance émotionnelle forte au poème. Il donne de la profondeur au poème. Ce site est intéressant car il donne des pistes de compréhension de quelques kireji. Ya, par exemple, indique la surprise, l'étonnement. Mais il peut tout aussi bien indiquer le doute ou l'interrogation, si vous dire quand même la complexité. C'est notamment celui que l'on trouve dans le célèbre poème de Basho, ici dans la traduction de Mapsun, très originale. « Vénérable étang, les rainettes plongent, oh, le bruit de l'eau. » Furu Ikeya, là je suis en train de dire le premier vers, signifie, voilà, vieil étang. Dans cette traduction, le traducteur a inséré un point d'exclamation pour bien faire sentir l'émotion. Ce texte traduit un nombre incalculable de fois pourrait être un exercice intéressant. On pourrait se demander comment le « ya » a été traduit graphiquement à chaque fois. Et nous reviendrons probablement là-dessus lors d'une émission spéciale sur la traduction. « Kana » est aussi un « kireji ». Il indique l'emphase, l'admiration. Cela pourrait se traduire en français par « quel »,« quel » ou « oh »,« ah ». Bon, attention à utiliser avec parcimonie quand même ce « oh », ce « ah ». Mais aussi, il a le sens d'une question intérieure. C'est vous dire la complexité de la traduction, hein, forcément, pour tout ça. Par exemple, « fleur de cerisier, autour d'elle se traîne le genre humain. Sakuana no, nakani ugomeku, Shojukana. Et voilà. Le shoju, le kana final, le genre humain avec un point d'exclamation traduit dans le poème, eh bien, c'est cette interrogation sur la question de l'existence humaine. Il y a aussi un autre kiréji qui s'appelle Keri, donc oui, il y en a plein, on ne fera pas le tour de tout ça, qui, lui, est une prise de conscience face à une scène passée, la nostalgie aussi qu'on pourrait traduire par « enfin » ou « voilà »,« alors » ou « hélas ». Pour cela, on va penser à un poème de Ryokan. Tout autour de nous, le monde n'est plus que fleur de cerisier. Le dernier vers, ni nari keri, voilà, insiste sur cette suspension du temps. On remarquera que le kiréji est seulement évoqué dans les livres, car il est difficile d'en transmettre l'essence. Et pourtant, c'est bien dans cette nuance, dans l'émotion qui est suggérée que se situe toute l'essence et la force du haïku. Il faut s'amuser à voir chaque fois que possible et lorsqu'il y a transcription du japonais où se trouve le kiréji et comprendre le sens de sa présence et de sa traduction. Je vous propose encore un dernier haïku. L'isolement absolu, un autre grand plaisir au crépuscule d'automne. C'est un haïku de Yossa Buzon qui est quand même l'un des plus grands auteurs de haïku et c'est traduit par Sam Hamill. Et dans ce poème, le kiréji est à la fin un isolement absolu. Il est matérialisé par un tiret long. Il est courant d'ailleurs que le kiréji soit seulement représenté par un élément de ponctuation en français. Dans l'exemple, il s'agit du kiréji shi, qui indique que l'auteur invite à comparer la solitude et le crépuscule d'automne. Tristesse et beauté se croisent suivant le concept traditionnel de wabi-sabi, la perfection dans l'imperfection. La fragilité et l'impermanence de la beauté. Nous reviendrons évidemment plus longuement sur cette notion de wabi-sabi dans une prochaine émission. Et maintenant que nous avons vu l'importance du kiréji, écoutons quelques haïkus d'automne sur le thème de la montagne, extrait du recueil sur l'automne publié aux éditions Mundaren. Ce sont des haïkus de Minayoshi Sou, Mori Sumiyo et Issa. Une femme au bain. Bruit d'eau solitaire, automne en montagne. Dans les mouvements des carpes géantes, couleur de montagne. Dans la froidure, par les manches, entre le jour, montagne d'automne. Trois poèmes qui mériteraient chacun un commentaire, une analyse, mais il n'est plus temps. Comme toujours, finissons cette émission par un petit exercice.
Écrire les poèmes, c'est chercher la beauté, comprenez-vous ? Dans ce qu'on a sous les yeux.
Pour cette 7e émission sur la césure, je vous propose de choisir un de vos poèmes ou prendre la traduction d'un poème et de repérer la façon dont est représenté le kiréji. Et de s'amuser à le représenter différemment. C'est selon, voilà, s'il y avait un tiret, mettre un point d'exclamation, un autre type de ponctuation, une interrogation, de mettre une majuscule au début du segment qui suit, de mettre une interjection du type « ah, oh ». Voilà, à vous de vous amuser et de les relire les uns à côté des autres et de comparer toutes ces versions. On remarquera à quel point un simple élément comme celui-ci peut changer toute la signification et même toute la force d'un poème. Il n'y a pas mieux que le haïku pour mesurer l'importance d'un rien. Amusez-vous bien. Merci d'avoir écouté cette émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous présenterai de nombreuses haïjin. On continuera bien entendu à écouter des haïkus. Poétiquement vôtres.